c'était rappeler le projet du créateur, homme et femme, il les créa. Que ce projet du créateur, moule de la famille, était incontournable. Et puis, les personnes homosexuelles sont là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je dis des fois à l'église. Bon, projet du créateur, homme et femme, bon, d'accord, c'est béton. Mais les homos, ils sont là, on fait quoi? Voilà. Est-ce qu'il y aurait peut-être un texte qui pourrait aussi aider, qui pourrait être le fondement de ce qui arrive finalement. Voilà, ou bien finalement, même la Bible ignore le phénomène pour se recaler sur ces paroles assassines, Lévitique, Deutéronome, qu'on enfile comme ça un peu n'importe comment. Et puis j'ai cherché, puis j'ai trouvé une parole qui certainement peut être aussi fondatrice de quelque chose. C'est Jérémie chapitre 18, versets 1 à 8 ou 1 à 10. Quand Jérémie descend chez le potier, de l'envoie chez le potier, puis il observe le potier qui fait un vase, puis le vase il rate. Bon, il reprend sa terre glaise, puis il refait un nouveau vase. Puis on peut imaginer qu'il refait 10 fois comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce premier projet qui pourrait être aussi pour tout le monde? Qu'est-ce qui a fait que ce premier vase auquel il voulait donner une forme particulière, ça a raté? Oui, il y a eu un but, il y a eu quelque chose. Bon. Alors on pourrait dire les homos, c'est des ratés, quoi. Ils ne sont pas dans le projet de Dieu, dans le projet du Créateur. Et Dieu... Le potier, enfin c'est Dieu le potier, il refait ce vase, il va lui donner une autre forme. Peut-être pas la forme que j'aurais voulu avoir, mais c'est une forme que je dois apprivoiser parce que Dieu est en train de me la donner. Il est en train de me faire, de me refaire. Or peut-être qu'on peut situer les personnes homosexuelles dans ce premier vase où quelque chose a raté, a cassé, pour le voir dans ce second chef-d'œuvre que Dieu veut modeler, une forme nouvelle qu'il veut donner. Voilà ce texte que je trouvais très important. Comme dirait le cardinal Schönborn aussi, quand il parle des divorcés et remariés, des situations irrégulières, vous n'êtes pas dans le projet de Dieu parce que ça a raté, mais vous êtes dans la famille de Jésus. Alors moi, c'est ce que j'aurais aussi envie de dire. La personne homosexuelle n'est pas dans Genèse 1-2, dans le projet initial du Créateur, mais elle est dans le cœur de Dieu, elle est dans ce second chef-d'œuvre. C'est à partir de là qu'il faudrait voir, parce qu'évidemment, la bulle, comme on a souvent dit, on ne sait pas trop ce que c'est, d'où ça vient. Et puis peut-être que j'aurais aimé être le premier vase. Et puis, il faut que j'accepte d'être le second. Mais pour ça, il faut que j'accepte de me laisser vraiment remettre entre les mains du Créateur, entre les mains du potier qui veut me donner la forme dont il rêve maintenant. Non pas avant, mais maintenant. Et ça, je pense que c'est important. Et on comprend aussi pourquoi l'argile parfois se révolte. C'est toujours dans la Bible, hein, je vous cite... Donc Isaïe 29, 16, Isaïe 45, 9. J'ai été chercher plus loin que Jérémie 18. L'argile parfois se plaint. Et on a le droit de se plaindre. L'argile se plaint aussi Romains 9, 20, 21. Ça a été repris. Romains 9, 20, 21. Vous pouvez méditer tous ces textes. En faire peut-être des textes clés. Et l'argile parfois se plaint entre les mains du potier. Mais enfin, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait comme ça? J'aurais pas aimé être comme ça. J'aurais pas aimé avoir cette forme-là. Pourquoi m'as-tu fait comme ça? Et il est important de se révolter. Sinon, on passerait de la pommade sur toutes les situations. Mais non, t'en fais pas, mon gars. Voilà, Dieu t'aime. Puis voilà. Non? La colère, c'est important. La colère, ça sert à dire non à quelque chose que je n'arrive pas à accepter au départ. Et ça, tous les jeunes qui n'ont pas été orientés du genre « mais oui, c'est une simple alternative à l'hétérosexualité, mais je ne sais pas s'ils l'acceptent vraiment. » En général, moi, les jeunes que je rencontre sont des jeunes qui, parfois même, sont accompagnés par un médecin psychologiquement, parce que c'est trop dur à accepter. Donc la révolte, elle est importante. Ben non. J'aurais pas aimé être ce vase-là, j'aurais aimé être dans les premiers. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et si ça avait été à refaire, et si j'avais pu choisir, j'aurais choisi le premier, évidemment. Alors, est-ce qu'on va rester à ce vase qu'on dit... différents, brisés, où il y a eu une bulle cassée, c'est terrible. Ben non, c'est ça le cheminement avec Dieu. Je vais me remettre entre les mains du potier parce que Dieu rêve, à travers la glaise que je suis, de me donner une nouvelle forme, d'en faire un chef-d'œuvre de miséricorde. Je crois que c'est important. Et voilà ce que dit Dieu. Le potier ressemble-t-il à l'argile pour que l'œuvre ose dire à celui qui l'a faite « Tu ne m'as pas faite » Et un pot à son potier oserait-il dire « Le potier ne sait pas travailler » Vous voyez tout ce qui relève de la révolte. Hein. Ou encore en Isaïe 45:9 « Malheur à qui discute avec celui qui l'a modelé, vase parmi les vases de la terre. L'argile dit-elle à son potier « Mais que fais-tu ?» Ton œuvre n'a pas de main. Et c'est là aussi où saint Paul reprend ce qu'est énigmatique. Hein. Il reprend ce passage et il dit en Romains 9, 20, 21, « Ô homme, vraiment, qui es-tu pour disputer avec ton Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelé « Pourquoi tu m'as fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas le maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire ? Tout ce qu'on a comme réponse. Hein. De l'autre côté, il faudra lui demander, peut-être qu'il donnera plus de précision. Mais peut-être que pour l'instant, il faut accepter que Dieu sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Accepter d'être cette argile-là, d'avoir cette forme-là, et non pas autrement. Une autre manière de dire que Dieu agit toujours dans nos vies, que nous ressentions son action comme un bien ou comme une souffrance au bout du compte, c'est toujours pour un bien. Ne faut-il pas que dans un premier temps, l'argile souffre entre les mains du potier pour trouver une forme, sa forme. Le drame, c'est de vouloir dicter à Dieu avec obstination ce qu'il aurait dû faire. Ce qui est dangereux dans cette volonté-là, c'est quand elle prend la place de Dieu et décide ce qui doit être fait, ce qui doit arriver absolument ou ce qui n'aurait pas dû arriver. Elle rend aveugle et indisponible à ce que Dieu propose aujourd'hui. Le drame n'est pas de vouloir, mais de vouloir avec obstination, d'avoir l'idée de ce qu'il faut absolument. C'est cela qui rend sourd aux appels de l'Esprit. Voilà ce texte que je propose à vos méditations. Quand on médite un texte comme celui-là ou comme tant d'autres, Dieu a toujours quelque chose à nous révéler, à nous dire à chacun, chacune de nous personnellement. Alors l'enseignement de l'Église, voilà, il ne faut pas y voir un carcan culpabilisateur, mais un conseil, un idéal. L'Église ne peut pas se mettre à la place des personnes. Encore une fois, la doctrine, c'est un point de repère, c'est un idéal, mais ce n'est pas la personne. Finalement, comme d'hier au sujet de la conscience, c'est chacun de nous qui dialoguons avec notre Dieu, qui devons, à travers ce dialogue, trouver notre propre chemin. La vraie question reste toujours celle-ci. Que veut dire pour moi aimer et être aimé, quelle que soit mon orientation ? C'est ça qui est important. Le péché n'est pas le péché relatif ou qui fait référence à l'homosexualité ou à l'hétérosexualité, mais réellement à l'amour. Est-ce que aimer pour moi, c'est destructeur ou au contraire constructeur ? Je cite le cardinal Schönborn, ça c'est le troisième point que j'aborde, que j'ai intitulé « Entre doctrine et pastorale ». La question était posée hier. Hein. Voilà ce que dit le cardinal. « La doctrine sans la pastorale n'est que cymbale retentissante. La pastorale sans la doctrine n'est que vue humaine. La doctrine, c'est d'abord la bonne nouvelle qui rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est l'ens de la vérité fondamentale, Dieu a fait miséricorde. Et tout ce qu'enseigne l'Église, je cite toujours le cardinal, c'est ce message qui se traduit ensuite dans des doctrines complémentaires, sans une vraie hiérarchie des vérités, aussi bien dogmatique que morale. Alors comme moi j'aime beaucoup les images, je prendrai l'image de la montagne chez nous, puisque je suis au pied des 4000, voire plus haut. Alors quand vous allez faire une barappe ou en excursion, il y a toujours à un moment donné, il y a des petits panneaux jaunes qui vous guident le chemin par ici. Là, vous avez pour 30 minutes. Attention, pas ici, danger. Et puis on est sur le chemin, nous serpentons. Voilà. Les petits panneaux jaunes, si vous voulez, c'est la doctrine de l'Église. Voilà. Et quand on fait une ascension en montagne, on est toujours rivé sur le sommet. C'est le sommet qui nous attire. C'est l'idéal. Ce sont les béatitudes. C'est le sommet du bonheur. Mais comment l'atteindre sur ce chemin? Bon, on suit les panneaux. Ça, c'est très clair. Mais chez nous, au-dessus des glaciers, il n'y a plus de panneaux. Lorsque la montagne devient dangereuse, il n'y a plus de chemin. Alors on y va avec un guide, ou alors guidé par l'intuition pour atteindre ce sommet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des situations humaines qui sont bien claires, que l'on peut définir avec les petits panneaux jaunes, avec la doctrine. Et plus on monte, plus ça devient flou. Moins on a les bonnes réponses, et à un moment donné, on n'a plus de réponse du tout, parce qu'il n'y a que l'homme sur ce chemin-là. Et voyez-vous, au-delà de la doctrine, il reste l'intuition, il reste le dialogue avec le Seigneur, il reste le guide pour m'aider à trouver mon chemin. Et c'est vrai, parfois je suis seul. Mais le fait d'être seul nous fait nous mettre aussi à l'écoute de l'Esprit qui parle en nous, à l'écoute du guide qui marche à nos côtés, car le guide est descendu du sommet de la montagne et nous a rejoints à flanc de coteau, sur les 500 mètres, les 1500, les 3000, là où nous sommes, pour marcher avec nous, pour respecter nos pas, pour mettre ses pas dans les nôtres, et nous tirer en avant, parfois derrière, parfois à côté, parfois devant, ça dépend, mais sans jamais nous violenter. Comme l'étranger d'Emmaüs n'a pas poussé les disciples d'Emmaüs, là il voulait les amener, il a simplement mis ses pas dans les leurs, et leur a réchauffé le cœur, puis jusqu'à faire semblant de s'éloigner d'eux. Et ce sont eux qui le rappellent, « Viens avec nous, regarde, car le soir est tombé. » Et là, il entra dans leur vie, et il resta avec eux, jusqu'au partage du pain, jusqu'au partage de l'Eucharistie. On n'a pas toutes les réponses, il faut les chercher, pour que chacun puisse vraiment bâtir sa vie, comme il peut la bâtir avec les éléments qu'il possède. Alors voyez-vous, à un moment donné, il n'y a plus de doctrine, il n'y a que l'homme avec son Seigneur. Et personnellement, comme prêtre, c'est là que je me situe dans ces cris du pape François, accompagné en trois fois, ne jugez pas, prenez le temps. Il est vrai que j'accompagne des personnes en situation irrégulière dans l'Église, des couples divorcés, divorcés, remariés, homosexuels, etc. Moi, je les rejoins sur leur chemin, parce qu'il est possible de vivre sur ce chemin. Vous savez, la doctrine ou la théologie, c'est comme un train sur deux rails d'acier. Un train, ça va tout droit, ça déraille pas, normalement, ça déraille pas. Mais le train ne peut pas aller sur les petits sentiers de montagne, là où il y a des cul-de-sac, là où il y a finalement le chemin qui se perd, dans les gros pierriers ou à travers les glaces, le train, il ne va pas là. Il n'y a que des jambes qui qui puisse aller à la rencontre de l'autre qui cherche le sommet. Donc la théologie, elle est hyper importante, la doctrine aussi, mais il y a des moments, eh ben, il ne reste plus que nos deux pas et les petits chemins de montagne. Trop de pasteurs pêchent par exzèle, manquant de miséricorde, éteignant ainsi la flamme qui faiblit, comme s'ils étaient les propriétaires de la grâce. Combien de gens brimés à cause de la raideur de certains. Au contraire, les chemins de l'évangile ne sont pas ceux-là. C'est le pasteur qui quitte tout le troupeau qui se croit bien et juste, bon chic, bon genre, pour aller rechercher la petite brebis perdue, qui se croit vraiment nulle. Dans une fameuse homélie, le pape François exprimait son souhait, je cite, d'une église avec les portes ouvertes, pas une douane, où celui qui cherche Jésus est éloigné parce qu'il a commis quelque erreur. Tenir éloigné les personnes, ce n'est pas du zèle, et les contrôleurs de la foi, dit-il, ne font pas plaisir à Jésus, qui veut son église ouverte à tous ceux qui cherchent l'amour. Voilà, le pape François, qui encore la semaine passée, dans une homélie, disait « Méfiez-vous des prêtres raides et rigides, parce que moi, ils me font peur, ils mordent. » Bon, c'était peut-être pas très sympa pour eux, mais enfin, il l'a dit. Alors, voyez, je prends un exemple entre doctrine et pastorale. Pour moi, la pastorale, c'est vraiment d'écouter l'esprit dans l'autre, et la vraie question, mais dans ce que tu vis, est-ce que ça te fait grandir? Voilà. Est-ce que, peut-être, si on se mettait à l'écoute de l'Écriture, à l'écoute de l'Église, peut-être qu'il va y trouver des éléments de réponse, un chemin, sans plus. Après, c'est toi qui choisis, mais je serai toujours là. Alors, un exemple tiré du pape François lui-même, dans Civiltà Cattolica, qui avait paru il y a quelque temps de cela, où il prend un exemple d'une femme mariée, divorcée. Et avant son divorce, elle a fait un avortement. Elle s'est remariée et voilà, elle a trouvé son chemin, une belle famille, recomposée, épanouie, avec plusieurs enfants, mais son passé lui pèse. Donc une personne divorcée et mariée n'a pas droit au sacrement, comme nous le savons, dans la doctrine de l'Église. Et elle va se confesser, dit le pape. Que doit faire le pasteur? C'est le pape qui parle. Il y a des situations, dit-il, où il doit refuser à certaines règles de l'Église pour sauver la personne. Le prêtre doit lui donner le sacrement de la réconciliation. C'est le pape qui le dit. Vous voyez, peut-être que là on touche un domaine très délicat, mais à un moment donné, ce qu'il veut dire, c'est le pasteur qui doit prendre ses responsabilités. Il serait tellement confortable de se parigader derrière la loi puis dire c'est comme ça, moi je suis tranquille. Mais dépasser la loi, c'est ce que dit saint Paul, la loi n'est qu'un pédagogue, dit saint Paul, puis vous le savez bien. À un moment donné, il faut dépasser le pédagogue pour devenir soi-même responsable, comme le disciple, à un moment donné, dépasse le maître. Voilà. Mais la loi n'est qu'un pédagogue qui est toujours là, mais il faut la dépasser. Et il est tellement confortable de se barricader derrière la doctrine. Puis là, voilà, on ne s'engage pas. Il est terrible de s'engager là où il n'y a plus de chemin. Là où on risque de tomber dans une crevasse, où l'on risque de se perdre dans la montagne. Mais il faut être assez fou, parce que l'Évangile, c'est quelque chose d'assez fou, pour s'engager sur les chemins de l'autre et avec l'autre, pour l'aider à prendre sa décision. Cardinal Schönborn aussi, il cite, c'est intéressant au sujet des divorcés remariés, « S'il y a eu mariage sacramentel valide, une deuxième union reste une union irrégulière. Il faut le reconnaître, c'est une situation irrégulière. Par contre, il y a toute une dimension du fort interne, c'est-à-dire la dimension de l'accompagnement spirituel et pastoral des personnes qui cheminent dans une situation d'irrégularité et où il sera toujours nécessaire de discerner entre un rien et un tout. On ne peut pas faire d'une situation régulière une situation régulière, mais il y a aussi des chemins de guérison, d'approfondissement, des chemins où la loi est vécue pas à pas. Il y a aussi des situations où le prêtre, l'accompagnateur, qui connaît les personnes dans le fort interne, peut arriver à dire « Votre situation est telle qu'en conscience, en votre conscience et en ma conscience, vieux pasteur, je vois votre place dans la vie sacramentelle de l'Église. » Ce sera toujours le devoir du pasteur de trouver un chemin qui corresponde à la vérité et à la vie des personnes qui l'accompagnent, sans qu'il puisse peut-être expliquer à tout le monde pourquoi ils en viennent à telle ou à telle décision. Il a une même approche pastorale au sujet des personnes homosexuelles. Je connais une personne homosexuelle qui a vécu des années dans une succession d'expériences. Maintenant, elle a trouvé une situation stable. C'est une amélioration, ne serait-ce que simplement sur le plan humain, de ne pas passer d'acte en acte, de s'être stabilisé dans une relation qui n'est pas seulement faite de sexualité. On partage une vie, on partage des souffrances et des joies, on s'aide mutuellement. Il faut reconnaître que cette personne a fait un pas important pour son propre bien et pour le bien des autres, tout en disant que, bien sûr, ce n'est pas une situation que l'Église dit régulière. L'attitude fondamentale est celle de l'accueil et de l'accompagnement. Regardons d'abord la personne dont la dignité va au-delà de sa tendance sexuelle, tendance qui en elle-même n'est pas un péché. L'Église ne doit pas d'abord regarder la chambre à coucher, mais la salle à manger. Il faut accompagner au lieu de juger. Voilà. Alors là, je cite juste en passant un article, j'ai reçu au mois de février, j'étais très surpris d'ailleurs, une lettre de la conférence des évêques de France, moi le petit Suisse, pas du tout théologien pour un sou, en demandant de faire deux articles pour répondre à deux questions qui ont maintenant été insérées dans le livre sur le synode de la famille. J'ai vraiment rigolé parce que le sous-titre c'est 26 théologiens répondent, alors je ne suis pas du tout théologien, parce que le bon Dieu a dû se tromper là, mais enfin c'est pas grave. Oui, la question, alors je vous laisse, je vous fais grâce de l'autre question touchant les divorcés. La question qui m'était posée était celle-ci. Une relation homosexuelle vécue dans la stabilité et la fidélité peut-elle être un chemin de sainteté? Donc vous sentez quand même que, vu cette question, l'Église a quand même évolué. C'est impressionnant, quoi. Alors moi, je ne vous lis pas. Bon, j'ai commencé par répondre. Cette question en entraîne une autre. Peut-il y avoir un amour vrai entre deux personnes de même sexe? Il faut rentrer dans l'esprit de la question et dans le jeu. Ça veut dire, peut-il y avoir un amour oblatif, c'est-à-dire fait non pas de dévorer l'autre, mais de don. Parce que quand j'ai sorti mon bouquin, là, j'ai eu 5 théologiens qui ont réagi. Le premier a dit, l'auteur va à l'encontre de toute la tradition chrétienne. Et donc, complètement à côté, si vous voulez, une manière de dire ça en deux mots, prétendant qu'il peut y avoir un amour vrai en deux personnes de même sexe. Voilà, en gros, c'était ça. Je dis, bon, bah, alors ça. Et puis c'était pour un article, j'avais fait un article pour L'Invisible, vous connaissez ça. Et puis c'était un journaliste que je connais qui m'avait demandé de faire l'article. J'ai fait un article un peu osé, si on veut. Et le pauvre, il m'écrit, écoutez mon père, vraiment je suis désolé, vous savez, nous on est tenus de faire lire les articles d'abord à un théologien, mais voyez ce qu'il écrit pour vous. Cet article-là, on ne pourra pas le publier. Puis j'ai répondu, écoutez, moi je ne me prostitue pas pour que cet article soit publié, mais je pense que ce théologien, c'est un théologien de salon. Voilà. Donc je retire mon article. Puis il m'écrit, non mais attendez. Bon, il m'a dit, attendez. J'ai dit, bon, on va attendre, quoi. Et je crois, 2 semaines après, il m'a réécrit, écoutez, on a demandé à un deuxième théologien qui est pasteur. Et puis il est d'accord avec ce que vous dites, moyennant ceci, cela. Quand je dis, débrouillez-vous, alors si vous voulez publier, non, publiez-le. Mais moi, je ne retire pas mes idées, en tous les cas, et il a été publié, donc cet article. Et les 3 autres théologiens m'ont dit merci. Alors j'ai eu 5 réactions. Et donc, ceci pour vous dire que ce n'est pas si simple. Hein. On ne peut pas comme ça donner des réponses. Alors, il y a une réponse, vous l'avez comprise, très doctrinale au début. Donc, cet auteur va à l'encontre de toute la tradition chrétienne. Et les 3 autres théologiens qui m'ont dit bravo. Qui a raison? On ne saura peut-être jamais ou peut-être un jour. Alors oui, je termine par ça. C'est vrai que pastoralement, il est peu aidant de séparer les actes sexuels de la personne à partir du moment où on reconnaît une vraie valeur au couple. Une bonne morale se doit d'unifier, d'humaniser la personne dans le sens d'un amour vrai qui tienne compte de tout l'homme. Au lieu de parler d'actes, Ne faudrait-il pas plutôt parler de relations interpersonnelles et s'intéresser au devenir des personnes? C'est la direction prise par Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, donc il y a même des évêques. On peut y aller. Alors je le cite. Pardon ?
Un évêque à la retraite.
Malheureusement. Alors voilà ce qu'il dit. Oui, alors nous devons nous aider les uns les autres à vivre l'Évangile, dit-il, et ce n'est pas à partir d'un texte magistériel qu'on accompagne quelqu'un. Waouh, ça je trouve beau. Certains de ceux qui décident de vivre en couple y trouvent manifestement plus de sérénité et cherchent à rester fidèles. La question n'est pas de savoir s'ils suivent le règlement, mais de valoriser tout ce qu'il y a de beau dans leur vie et de leur indiquer des chemins de progrès à la lumière de l'Évangile. Voilà. Alors peut-être, bon, très concrètement, je pense que, de nouveau, moi je serais plutôt soucieux de l'accompagnement des jeunes dès qu'ils prennent conscience de tout ça, de voir si c'est pas... Il y a aussi des formes de pseudo-homosexualité, hein, qui le jeune peut complètement devenir tout à coup hétéro, donc ça soit très souvent d'ailleurs, mais je parle d'une homosexualité structurée, installée. C'est à partir de là qu'il faut prendre très tôt, déjà pour enlever toutes les caricatures, qu'elles soient laxistes ou légalistes. Hein. Il y a des deux côtés des caricatures, qu'elles soient laxistes ou légalistes. Et puis là, vraiment, une éducation à l'amour vrai. Comme pour des hétéros. Et puis ensuite, avec la particularité, c'est de dire, voilà, voilà aussi, on va voir ce que dit l'Église, de montrer vraiment toutes les possibilités pour aider ce jeune à un moment donné à décider ce qu'il veut vivre. Ce qu'il veut vivre, mais surtout une éducation à la vraie chasteté, qui est cette ouverture du cœur. Parce que dans l'homosexualité, il y a tellement, tellement de peur et de culpabilité que des fois, ben, un jeune, il va passer tout de suite à l'autre extrême. Quoi, il va se jeter dans la fourmilière, puis voilà, il ne s'en sortira plus. Donc c'est vraiment parlons d'amour, quoi, finalement. Parlons d'amour, c'est la clé. C'est la clé, je crois. Et puis ensuite, ça devient compliqué. Puis ensuite, on est au-dessus des glaciers. On est peut-être un peu perdu dans la montagne. C'est très compliqué. Où il n'y a pas réponse à tout. Et puis c'est là où il faut se mettre en dialogue. Voilà, moi je n'irai pas plus loin, mais je vous confie encore cette image du vase, Jérémie 18, méditez ça. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là, à creuser. Voilà, je suis moi aussi un chef-d'œuvre de miséricorde. Par comparaison, je dirais au chef-d'œuvre de création, mais Saint Paul lui-même, il dit qu'il a un chef-d'œuvre de miséricorde quand il s'adresse à Timothée, hein. Parce qu'il était, je ne sais pas s'il était homosexuel ou pas, c'est un fort, on ne saura jamais, puis tant mieux. Hein. Mais il dit quand même qu'il est tombé de loin, hein, et puis que vraiment il est un chef-d'œuvre de miséricorde. Voilà, alors est-ce que toutes les premières œuvres ont réussi, peut-être? Enfin, gardons quand même les priorités, gardons quand même le projet du Créateur, homme et femme à son image, il les créa, en se disant qu'après, ben, il y a des chefs-d'œuvre de création, puis il y a des chefs-d'œuvre de miséricorde. Voilà. Alors, entrons dans le chef-d'œuvre de miséricorde, même dans la révolte, dans la culpabilité, dans l'angoisse, dans la peur. Hein. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu fait comme ça? Il est légitime de le lui dire. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu fait comme ça? Si tu es Dieu, tu aurais pu empêcher ça. Est-ce que c'est Dieu qui m'a fait comme ça? Moi, j'en sais rien. Mais il aurait pu empêcher, puisqu'il est Dieu. Alors, pourquoi il n'a pas empêché? Mais bon sang. La seule réponse que je trouve, parce que je veux faire de toi un chef-d'œuvre de miséricorde, pour que tu comprennes les autres, que tu les aides, que tu sois un évangélisateur, que tu leur apportes une bonne nouvelle, que tu leur donnes envie de vivre. Voilà, chef-d'œuvre de miséricorde.